Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. On est, comme la sœur Ghislaine l'a dit, au début d'une semaine particulière. Le 17 octobre sera la journée mondiale du refus de la misère. 17 octobre, journée mondiale du refus de la misère. Et le 18 octobre, journée européenne de lutte contre la traite des êtres humains. Et la vidéo que nous avons regardée parle bien de ces problèmes de prostitution en l'occurrence. Mais quand on aborde le terme de la traite des êtres humains, il y a vraiment, malheureusement, tellement de manières dont ça se décline dans nos sociétés. Travail forcé, exploitation sexuelle, obligation de mendier, enfants soldats, esclavage domestique, appelé esclavage moderne, trafic d'organes. Et peut-être si vous avez lu la presse ces derniers mois, un problème qui commence à pas mal se développer dans nos cités, la prostitution des adolescentes. Quand on leur demande, mais comment tu t'es laissé embarquer dans ça, des filles de 14-15 ans, prostituées des fois, dans des conditions vraiment très répugnantes, plusieurs répondent, c'est par goût de l'argent facile. Le texte que nous lisons ce matin est dans l'Évangile selon Matthieu. Nous lirons Matthieu chapitre 25, les versets 31 à 46. Matthieu chapitre 25, versets 31 jusqu'à la fin du chapitre. Matthieu chapitre 25. Quand on lit l'Évangile de Matthieu, on aborde chapitre 24 et les disciples demandent à Jésus: tu nous dis que ce temple va être détruit, mais quand est-ce que cela va arriver? Matthieu 24, les premiers versets. Matthieu 24, verset 3. Dis-nous quand cela se produira-t-il et quel signe annoncera ta venue et la fin du monde. Sur deux chapitres, donc 24 et 25, Jésus va répondre à ces questions. Et notamment en parlant des signes qui annoncent sa venue. Il parlera de guerre, de famine. Il dira aussi qu'il viendra comme un voleur. Non pas que Jésus soit un voleur. C'est marrant, des fois, ces images très audacieuses qu'on n'aurait pas osé associer Jésus à un voleur. Aucun chrétien ne peut le faire. Jésus le fait, pourquoi? Pour mettre en évidence que sa venue nous surprendra. Jésus va utiliser ensuite plusieurs paraboles pour expliquer à ses disciples comment il veut qu'on l'attende. La parabole des 10 jeunes filles vierges nous montre qu'il faut s'équiper et prendre ses dispositions pour attendre le Seigneur, parce que l'attente peut être longue, plus longue que nous le pensons. La parabole des serviteurs au talon nous montre que Jésus attend de ses disciples qu'ils fassent fructifier ce qu'il a mis en eux. Puis Jésus termine cette section par le texte que nous allons lire, Matthieu chapitre 25, à partir du verset 31. Je lis dans la version du Semeur. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il prendra place sur son trône glorieux. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. Alors il les divisera en deux groupes, tout comme le berger fait le tri entre les brebis d'un côté et les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Après quoi, le roi dira à ceux qui sont à sa droite: venez, vous qui êtes bénis par mon Père. Prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais en prison et vous êtes venu à moi. Alors les justes lui demanderont, mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Ou quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Ou malade ou prisonnier et sommes-nous venus te rendre visite? Et le roi leur répondra, vraiment je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Et puis il se tournera vers ceux qui seront à sa gauche. Retirez-vous loin de moi, vous que Dieu a maudit, et allez dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez rien donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez rien donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli chez vous. J'étais nu et vous ne m'avez pas donné de vêtements. J'étais malade et en prison et vous n'avez pas pris soin de moi. Alors ils lui demanderont à leur tour, mais Seigneur, quand avons-nous vu souffrant de la faim et de la soif? Quand avons-nous vu étranger, nu, malade ou en prison? Et avons-nous négligé de te rendre service? Alors il leur répondra, vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous avez manqué de le faire. Et le verset 46. Et ils s'en iront au châtiment éternel, tandis que les justes entreront dans la vie éternelle. Amen. Il faut lire la parole de Dieu et s'en nourrir. Ça ne se lit pas comme un roman. Oh là là, c'est, il a divisé en deux groupes. Certains sont partis dans le feu. Oh là là, dis donc. Non, ce n'est pas une belle histoire que nous sommes en train de lire là. Nous parlons du jugement dernier. Le jour où Jésus se présentera, comme il dit au verset 31, le Fils de l'homme, qui était venu dans son humiliation servir plutôt qu'être servi, méprisé, rejeté. Le jour viendra où ce Fils de l'homme viendra, comme il dit lui-même, verset 31, dans sa gloire, avec tous ses anges. Il prendra place sur le trône glorieux. Et à partir de ce verset 31, Jésus ne parle plus du Fils de l'homme, il parle de lui-même comme le roi. Verset 34, après quoi, le roi. Oui, il faut que le peuple de Dieu l'entende. Jésus répond à ses disciples pour leur parler des signes qui annonceront sa venue. Et au final, il dit ceci, « Je viendrai et vous verrez le Fils de l'homme, le roi, assis sur son trône. » Et que dit-il ensuite? « Toutes les nations seront rassemblées devant lui. » L'Église de Christ doit comprendre cela. C'est très important. Je l'avais déjà dit quand on avait parlé du texte de Matthieu 28 pour le baptême. Il n'y a qu'un seul Seigneur, qu'un seul roi des rois, qu'un seul Tout-Puissant. Le Fils de l'homme viendra dans toute sa gloire, s'assera sur son trône. Et qu'elle le veuille ou non, toutes les nations seront rassemblées devant lui. Et c'est lui seul qui ce jour-là fera le tri. Les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. L'humanité divisée en deux parties qui ne se rencontreront plus jamais jusque dans l'éternité. Puisque la fin de cette section nous dit, les uns s'en iront au châtiment éternel, tandis que les autres entreront dans la vie éternelle. J'ai envie de dire, amen, que ta volonté soit faite. Toute l'espérance chrétienne aboutit à ce moment fatidique. Il faut bien comprendre pourquoi je crois en Jésus, pourquoi je viens le dimanche, pourquoi je lis ma Bible, pourquoi je prie. C'est pour ça. Pour que le jour où ce roi unique sera assis sur son trône, que dans sa grâce, il me mette à sa droite. Amen. Parmi ses brebis. Et Jésus de dire à ceux qui sont à sa droite, ceci. Venez vous qui êtes bénis par mon Père. Je suis au verset 34. Venez vous qui êtes bénis par mon Père. Prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. Quelle bénédiction, en effet. Et comment Jésus justifie ça? Oui, parce que j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Oui, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. Vous voyez, j'étais en prison et vous m'avez rendu visite. On ne peut pas s'imaginer ces choses. Celui qui dit ça, c'est le roi qui est là. Et il te dit, mais en fait, j'étais tout misérable et tu es venu à mes côtés. D'où la surprise de ceux à qui il s'est dit, ah, mais quand est-ce qu'on t'a vu nu, en prison, malade? Chaque fois que vous l'avez fait à un seul de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. De qui Jésus parle-t-il quand il parle de ses frères? La Bible y répond avec clarté. Ceux que Jésus appelle ses frères, vous le savez, ce sont ses disciples. Ceux qui font la volonté de son Père. Qui sont mes frères? Matthieu 12. Qui sont ma famille? Ceux qui font la volonté de mon Père. Voici mes frères. Voici ma mère. Voici mes sœurs. Chaque fois que vous avez fait du bien à un de ces plus petits de mes disciples, de mes frères, en fait, vous l'avez fait à moi. Ce n'est pas la première fois que Jésus montre comme ça son union avec ses disciples. Quand il se révèle à Paul qui persécutait les chrétiens, Jésus dit, pourquoi me persécutes-tu? Moi, tu me persécutes, pourquoi? Mais je ne t'ai jamais persécuté, je ne te connaissais pas. Si! En le faisant contre mes disciples, c'est contre moi-même que tu le faisais. Jésus, se tournant vers le groupe à sa gauche, le groupe appelé les boucs, dit ceci. Retirez-vous loin de moi, verset 41. Vous que Dieu a maudit, allez dans le feu éternel. Préparez, et là il y a une petite nuance, quand il s'est adressé aux brebis, à ceux qui étaient à sa droite, il a dit, le royaume préparé depuis la création du monde. C'était ça le but, que les hommes soient auprès de Dieu dans son royaume pour l'éternité. Mais le feu éternel n'était pas préparé depuis l'éternité pour les hommes. Le feu éternel préparé depuis le début pour le diable et ses anges. Vous les suivrez dans ce feu éternel. Et pourquoi? Parce que j'étais nu. Vous ne m'avez pas habillé. J'avais faim. Vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif. Vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais malade. Vous ne m'avez pas apporté de soins. pareil, ceux qui sont à sa gauche, ceux qui sont surpris, mais si on... Si on savait que c'était toi, à coup sûr, on serait venu. Mais comment? Mais non, jamais. Et Jésus de répondre oui. Et c'est là qu'il faut bien comprendre la réponse de Jésus à ce groupe. Jésus leur dit, au verset 45, « Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous n'avez pas fait cela, à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous avez manqué de le faire. » C'est pas qu'ils ont fait du mal, comme ce que Jésus va reprocher à Paul, comme j'ai dit, pourquoi me persécutes-tu? Mais là, c'est qu'ils ont manqué des occasions, visiblement nombreuses, de faire du bien. Et cela leur est reproché. Alors pour aller un peu plus vite, je raccourcis un peu. J'aimerais qu'on se positionne là, c'est pour ça que ce texte est dans la Bible. Qu'on puisse là lire ce texte, voir le roi, voir les brebis, voir les boucs, et réfléchir à soi-même. Dans quel groupe est-ce que je suis? Non, faut pas répondre trop vite. Faut pas répondre trop vite. Il faut... Les uns ont fait du bien, c'est clair. Les autres ont manqué des occasions de faire du bien. C'est pas qu'ils ont fait du mal, peut-être qu'ils en ont fait, mais c'est pas de ça que le texte parle. Ils ont manqué des occasions de faire du bien. Ils n'ont pas vu un pauvre, ils n'ont pas vu un prisonnier, ils n'ont pas vu un malade. Et là, je me dis, attention, pause. Attention, pause. Hey, mais moi, c'est mon cas. Attention, c'est vite fait de se dire, oh, je suis une brebis parce que je fais du bien, mais oula, je rate de nombreuses occasions de faire du bien moi aussi. Alors donc je ne comprends pas, est-ce que ceux qui sont dans le groupe à la droite, eux, ils ont fait toujours le bien quand ils ont pu? Et de même, ceux qui sont à sa gauche, est-ce que eux, ils n'ont jamais fait de bien? Ils n'ont jamais saisi la moindre opportunité de faire le bien? Et là, je dois m'asseoir et réfléchir à ce texte et me dire, mais c'est pas possible. Je ne peux pas me considérer en moi-même comme étant membre du groupe qui est à sa droite. Je rate tellement d'occasions de faire du bien. C'est ça l'évangile. Tout chrétien est d'abord humilié par la parole de Dieu, afin que tes bras t'en tombent. Ah, Seigneur, comment faire pour être auprès de toi pour l'éternité? Tout seul, j'y arriverai jamais. J'insiste, ce que Jésus reproche à ceux qui sont à sa gauche, c'est d'avoir raté tellement d'occasions de faire du bien. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis vraiment dans ce cas-là. Tellement d'occasions de faire du bien. Des occasions ratées. Et au final, on s'est dit, mais dis donc, qu'est-ce qu'ils sont bénis, ceux qui sont à sa droite? Mais comment ont-ils fait? Et c'est là qu'il faut revenir à la base de la foi chrétienne. Le pain que nous avons pris, le jus de raisin, ce vin, c'est quoi? Vous voyez, c'est le problème des symboles si modestes. Oh Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est quoi ça? C'est que lui, Jésus, il est mort à la croix pour ôter mon péché. Ça, c'est la réalité de ce qu'il a fait. Et ce que je fais là, c'est le symbole. Mais ce qu'il a fait, c'est pas juste un tour de magie pour qu'on se fasse du bien le dimanche. Non, c'est une réalité. Aussi bien que ceux qui ont cru en Jésus, toutes leurs occasions montées, toutes leurs fautes sont ôtées. Je ne sais pas si je suis clair. Ceux qui sont à sa droite, C'est pas qu'ils ont mené une vie parfaite. Ils ont saisi toutes les occasions pour faire du bien. Non, c'est pas ça l'évangile. Ils ont mis leur foi en Jésus, amen, le Fils amen. De l'homme. Amen. Ce qu'il explique au chapitre 26, son sang va être répandu pour beaucoup, afin que leurs péchés, leurs manquements soient pardonnés. Aussi, au jour du jugement, c'est comme si dans le casier judiciaire, il ne restait que les bonnes actions qu'ils ont commises. Ces bonnes actions commises ont du prix aux yeux du Christ. Chaque fois que vous l'avez fait à un seul de ces plus petits de mes frères, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Le groupe de gauche est celui qui n'a pas mis sa foi en Jésus-Christ et ses péchés lui sont conservés. En plus du mal que nous faisons tous, le bien qu'ils ont manqué de faire leur est reproché. Aussi, le chrétien qui lit ce texte ne peut que se mettre à genoux devant le Fils de l'homme, le roi, pour lui dire, ô agneau de Dieu, merci d'avoir ôté mon péché. Ce texte donc est là pour nous montrer que Jésus donne sa vie, il verse son sang pour quelque chose qui est concret, qui est réel, pour qu'au jour du jugement, nous n'ayons, entre guillemets, rien dans notre dossier que Jésus puisse nous reprocher parce qu'il a payé la condamnation que méritait notre faute. Mais ce texte est là aussi à coup sûr. Et c'est pour ça que je l'ai choisi en ce dimanche de lutte contre la misère. Il est là pour nous encourager à être des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, qui portons un regard plein d'amour envers notre prochain. C'est vrai, comme je l'ai dit, et je le crois, Jésus appelle ses frères que ceux qui sont ses disciples. Donc on peut se dire, ah mais finalement, est-ce qu'on est invité à faire du bien qu'aux chrétiens? J'ai envie de dire, c'est déjà bien de commencer là. C'est un bon début. Mais à coup sûr, pour celui qui connaît l'évangile dans sa globalité, Jésus lui-même nous invite à être des personnes pleines d'amour et de charité envers notre prochain. C'est Jésus lui-même qui dit, aimez vos ennemis, vous serez ainsi les enfants de votre Père céleste. Parce que lui, il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Nous sommes invités à faire du bien à tous. Ce texte, je pense, ne nous limite pas forcément à des actions de charité envers les chrétiens. Bien que, c'est important de le savoir, Jésus insiste pour que cette charité commence aussi au milieu de ses disciples, dans son Église, parce que nous sommes frères et sœurs du même Père céleste. On a vu, comme j'ai dit en introduction, tellement de défis qui s'offrent à nous. Peut-être même qu'il y a au milieu de nous ici ce dimanche des personnes qui passent par des souffrances et nous ne le savons pas, nous ne le voyons pas. Soyons attentifs les uns aux autres pour être des personnes qui nous aidons, qui nous aimons, et cela par des actions concrètes. C'est Jacques, dans la lettre de Jacques, qui dit que une foi, c'est bien la foi qui sauve. Point final, hein? C'est la foi qui sauve. Mais une foi sans œuvre, Jacques chapitre 2, versets 15 et 16, une foi sans œuvre est... Comment ?
Morte.
Ah, une foi sans œuvre est morte. Une foi qui prie, qui prie, qui parle aux gens, qui fait des miracles, mais qui laisse mourir à côté de lui, et celui qu'il peut aider. C'est du brouhaha. C'est une foi qui... C'est pas une foi en fait, hein, puisqu'elle est morte. Qu'il n'en soit pas ainsi pour les disciples véritables de Jésus. Que notre foi soit vivante, vivante, en action de charité, en action concrète. On a vu venir en France beaucoup de migrants, par exemple. On n'a pas forcément la capacité de les accueillir, encore que peut-être certains pourraient le faire. Mais je pense que des fois, ils sont dans des centres, aidés par des associations. Peut-être que là aussi, on a les moyens, même modestes, mais on a peut-être les moyens d'aider d'une manière ou d'une autre. On a peut-être dans notre voisinage, dans notre entourage, des personnes, des jeunes filles peut-être, tentées par l'argent facile, par la prostitution. On peut, on doit apporter, si possible, une aide à ces personnes en leur disant non, c'est pas la volonté de Dieu pour ta vie, c'est pas la volonté de Dieu pour ton corps. Il serait bien régulièrement d'avoir une pensée pour des personnes en difficulté que nous connaissons. Il y en a forcément, en tout cas moi dans mon entourage, franchement j'en ai beaucoup. Je me dis, oh, c'est pas les occasions qui manquent. J'en rate beaucoup, mais c'est pas les occasions qui manquent. Soyons des personnes attentives aux souffrances de ceux qui sont autour de nous. Parce que Jésus, notre Seigneur, prend bien note de nos bonnes actions. Et elles ont du prix à ses yeux. C'est certes pas ce qui nous sauve, mais quelle joie au jour du jugement quand Jésus te dira ou me dira, entre dans mon royaume, car j'avais faim et tu m'as donné à manger. J'avais soif et tu m'as donné à boire. J'étais nu et tu m'as habillé. Voyez, les textes que nous lisons dans le Nouveau Testament, des fois, on s'est dit, oh, c'est plus soft, plus doux que l'Ancien Testament avec des crimes, du sang. Mais le chrétien ne doit pas sous-estimer ce que c'est que la peine éternelle, le châtiment éternel qu'on appelle souvent l'enfer. Le mot enfer, je ne sais pas s'il est dans la Bible, je n'ai pas eu le temps de chercher, je ne crois pas. Merci, pasteur Sylvain. Ce mot enfer n'est pas dans la Bible. Mais l'idée y est bien. Par des images. Peut-être qu'il ne nous parle pas parce que, oh Jésus, le feu éternel. C'est-à-dire que tu es dans un feu qui ne s'éteint pas. Tu brûles. Tu brûles. Et ça ne s'éteint pas. Le ver qui ne meurt pas. À la fin du livre du prophète Ésaïe. Tu pourris. Mais ça ne finit pas. Tu n'arrêtes pas de pourrir. Mais tu ne meurs pas, c'est-à-dire que pour l'éternité, tu es dans ce feu, dans cette pourriture. C'est ça l'enfer, hein? C'est ça le châtiment éternel. Il est bien quand on lit ces textes que nous soyons aussi interpellés par cette réalité. Pour rien au monde, je veux finir dans ce groupe. Ah ça, je ne veux pas finir dans ce groupe. Ah non! Le chrétien doit se rebeller contre ça. Ah non, 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 non. Je veux être à ta droite. Je veux être à ta droite. Un seul moyen, si tu veux vraiment être à la droite, place ta foi et ta confiance en Jésus-Christ. Et prouve ta foi par l'amour réel envers les personnes qui sont dans ton entourage. Je vais prier. Voilà, Seigneur, nous bénissons ton nom, nous bénissons ta parole. Seigneur, nous lisons ces textes et vraiment nous prions que ces textes travaillent dans nos cœurs, qu'ils nous affermissent dans la foi, que nous nous accrochions davantage à toi, le véritable roi, et que tu nous aides aussi à travers ta parole à changer notre regard envers les personnes qui autour de nous souffrent, chrétiennes ou pas chrétienne. Aide-nous, Seigneur, parce que, oh Seigneur, notre cœur est si dur. Nous avons besoin de la puissance de ton Saint-Esprit pour nous aider à aimer comme toi tu aimes. Oh Seigneur, nous savons que nous ne pouvons jamais atteindre un tel amour. Mais aide-nous à nous en rapprocher afin de montrer Jésus-Christ et l'Évangile aux yeux du monde. Un monde plein de misère. Aide-nous Seigneur à être véritablement la lumière du monde et le sel de la terre. Au nom de Jésus. Amen.